aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui guérissent par les enseignements. Et je crois que je vous l'ai dit, mais je vais le redire. Il y a eu une période où j'ai eu un téléphone de quelqu'un totalement en détresse, atteint d'une maladie incurable au niveau du pancréas, et qui n'avait plus que quelques mois, d'après ce que j'ai pu comprendre, maximum une année. Et c'est un cancer extrêmement douloureux, celui du pancréas, et terrible. Et donc, on a prié par téléphone parce qu'il habitait très loin. Et j'ai juste fait une prière comme ça, de cœur, parce qu'on ne prie pas comme ça, on prie de cœur. Ou alors je ne prie pas. Moi, c'est clair, c'est net. C'est pas je fais semblant pour faire plaisir. On le fait ou on ne le fait pas. Et j'ai mis mon cœur et puis il me dit ne m'oubliez pas. Et puis je n'ai pas été très régulier, je n'ai plus pensé, il y a tellement de choses. Je n'ai pas prié régulièrement pour cet homme. Je n'ai pas particulièrement pensé. Puis il y a quelques semaines, il me téléphone et il me dit que tout va bien. Tout son état s'est amélioré. Et que les médecins ne comprennent pas. Hein. Vous comprenez bien qu'ils ne comprennent pas. Comment comprendre un miracle pour ces gens qui veulent expliquer les miracles? L'essentiel, c'est qu'il aille mieux. Sans compter d'autres choses. Hein. Et ma femme, on en a vu, et on sait. Alors, ce n'est pas le but. Que l'Éternel nous bénisse et que sa gloire soit sur nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose qui a été... qui est sorti de l'ordinaire lors de... C'est un moment que je réfléchis à la paracha et je me dis, Seigneur, montre-moi. C'est des choses que j'ai étudiées, qu'on a étudiées ensemble, qu'on a beaucoup vues. Et là, on va le voir d'une manière complètement différente. Et surtout, c'est de voir comment s'approcher de la Shekhina. Quand Dieu s'approche de nous, qu'est-ce que ça veut dire? Sa gloire est là. Si nous, on n'est pas purs, si nous, on ne correspond pas, est-ce que sa gloire reste ou elle s'en va? Et donc, le Mishkan nous amène justement à comprendre qu'il y a une construction, parfois rapide, parfois lente, ça dépend des êtres. Mais ce qui est essentiel, c'est de rentrer dans un principe qui construit une identité. Et non pas être dans la dimension de Bilial sans identité. Dans quelque chose qui ravit l'identité, mais au contraire, quelque chose qui affirme l'identité. Alors, c'est la paracha Terouma, comme Xavier l'a mentionné tout à l'heure, et elle commence au chapitre 25, et elle va jusqu'au chapitre 28. Et on voit qu'en trois chapitres, c'est interminable. Vous allez voir, c'est interminable. Et quand on lit justement Veikrou les Terouma, alors qu'ils prennent pour moi une offrande. Et ça, c'est le contraire de ce que vous avez peut-être l'habitude d'entendre. Il est écrit qu'ils prennent, que les enfants d'Israël, ceux qui sont sortis de l'esclavage de l'Égypte, prennent pour l'Éternel, lui offrir quelque chose. Et il est dit pour moi. Et c'est clair que ça a un sens et une signification très différente. Il n'est pas dit pour que le monde aille mieux, le monde social, le monde économique. Il dit qu'ils prennent pour moi une offrande. Et on va voir à quoi elle va servir, parce que ça, c'est le départ de tout. Donc cette paracha, elle inaugure la construction du Mishkan, les ustensiles, les rites, le service divin qui vont se faire sur deux niveaux, extérieur et intérieur. Tout est écrit avec précision et rigueur. Il y a des détails incroyables dans tous ces chapitres. Tout est mentionné, les matériaux, les mesures, les poids, mais tout a un sens, une signification. Et quelque part, on est en droit de se demander comment servir l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que servir l'Éternel? Est-ce que c'est le servir comme on l'entend aujourd'hui, en faisant n'importe quoi, n'importe comment, et en disant « parce que je fais ça, je sers l'Éternel », ou alors « parce que je parle bien, je sers l'Éternel », ou « parce que je fais certaines choses » ou « que je suis bien en vue, je sers l'Éternel », c'est pas ça, servir Dieu. Dieu a établi les règles pour qu'on comprenne ce que cela veut dire, le servir de tout son cœur. Et donc, cette construction matérielle, elle a une dimension spirituelle. Ce n'est pas simplement la construction visible. La construction visible rend visible l'invisible. Et c'est la première des règles à comprendre. C'est que si nous sortons de cette compréhension par rapport à l'Éternel, eh bien, nous passons vraiment à côté des choses. Lorsque Dieu dit « tu vas me construire, tu vas me faire quelque chose pour moi », c'est parce que il y a la dimension également qui est liée à l'invisible, qu'on peut appeler également spirituelle. Alors, il marque inévitablement tous les aspects de notre service pour le Seigneur. Et dans la pensée d'Israël, cela veut dire qu'en même temps que les enfants d'Israël sont en train de construire ce Mishkan, sont en train de le bâtir, ils bâtissent également le règne et le monde futur, l'état futur d'Israël jusque dans les derniers temps. Ils sont en train, dans le visible, d'établir ce qui sera éternel et non temporel. Ce qui transcendera le temps et qui marquera les époques. Et on le verra, c'est quelque chose qui prend une dimension extraordinaire. Parce que trop souvent, nous bâtissons dans la matérialité. Nous vivons de la matérialité, dans le domaine de la matérialité. Tous nos soucis vont dans le monde matériel. Il n'y a aucun souci qui va dans le monde spirituel. Personne ne se soucie de la maison de Dieu. Tout le monde se soucie de ce qu'il a ou il n'a pas. De ce qu'il possède, de ce qu'il pourrait posséder plus, de ce qu'il voudrait plus, et la manière dont il pourrait aller mieux, la manière dont il pourrait améliorer son état de vie. Mais tout ça, c'est quelques années. Des fois, les gens font des buts ultimes de toute leur vie. La recherche d'un certain nombre de choses, et pour finir, eh bien, ça s'arrête. Et l'Éternel est en train de dire à Israël, après avoir reçu le don de la Torah, voilà, maintenant, nous avons passé Pessah, les trois plaies d'Égypte, nous avons passé toutes les parachiotes d'avant, où nous avons vu la déchirure du temps. Et nous entrons maintenant dans ce qui se construit de manière visible, mais éternelle. Et de quelque chose qui va être fondamental. Donc Dieu dit, réellement, dans cet univers, dans ce niveau, dans ce visible, sera l'invisible. Et l'invisible pourra être vu par le visible. Donc, se construire, c'est aussi construire une identité. Dieu construit une identité qui va mettre Israël à part de toutes les autres nations. C'est cette identité du Mishkan qui fait d'Israël la particularité de toutes les nations, de toutes les règles culturelles, de toute cette relation, de toute cette vie avec Dieu. C'est ce qui va mettre Israël définitivement à part de toutes les nations, au travers même d'une Beth Amikdash qui sera établie lors du règne de Shlomo, et de ce règne qui sera rétabli par le Mashiach, Yeshua. Et il nous faut bien comprendre que ça va prendre une dimension extraordinaire. Et qu'à partir de ce moment, eh bien Dieu dit, je construis l'identité dans ce monde. Et à partir de ça, parce que très souvent, les gens sont dans la perte de l'identité aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans quelque chose où on ne sait plus. On ne sait plus ce que ça veut dire être, exister. Et beaucoup eu de contact avec des gens qui disent « Pourquoi vivre ? Pourquoi exister ? À quoi ça sert ? Tout va mal. » C'est vrai ou c'est pas vrai ? Et encore avec Hollande, ça s'aggrave. Alors, et il nous donne des espoirs, on va voir ses espoirs à lui. Mais on va plus loin. Cette identité qui doit se faire, non pas dans la matérialité, mais en Dieu. Se construire en Dieu, dans mes rapports avec le visible et l'invisible. Ce qui m'est caché, autrement dit, deviendra révélation. C'est-à-dire que nous pouvons vivre toujours dans un niveau de visibilité qui ne nous révèle jamais ce qu'il y a derrière ce visible. Et le but est de pouvoir découvrir à un moment donné que derrière ce visible-là, que je connais, que vous connaissez, quel que soit votre niveau spirituel, quelle que soit votre intensité de connaissance, il y a toujours plus derrière. Parce que la connaissance de Dieu est infinie. On n'a jamais fini de connaître. Et on ne connaîtra jamais totalement. On ne connaît que par bribes. On ne connaît que dans la dimension des arts, hein, d'une toute petite portion. Mais c'est déjà quelque chose qui est important. Alors on va décrypter, avec l'aide de la Ruach, le sens et la signification de ces choses et de tout ce qui suivra après, plus tard. Parce qu'il sera impératif de bien comprendre comment suivre et appliquer son cœur pour construire. Et là, je vais sortir et je donne une règle. Je donne une règle simple. Ce n'est pas construire sur des choses qui n'ont pas de rapport de l'un avec l'autre, où on écoute dimanche après dimanche dans certains lieux un ensemble de choses et puis on oublie très vite et en même temps on n'applique pas. On n'applique pas. Le problème et le danger, c'est le manque d'application. Ce qui veut dire en hébreu que ta mémoire, elle est perdue. T'as pas de mémoire. T'es amnésique ou alors tu es tombé dans le coma. Et on tombe dans des comas spirituels et à un moment donné, c'est quoi? C'est l'oubli de ce qu'on a vécu. L'oubli de ce que nous devrions vivre en hébreu. C'est-à-dire que cet oubli-là fait que notre futur n'est pas un futur, mais que nous ne pouvons pas bâtir sur quelque chose qui change tout le temps de direction, d'orientation. Un coup Dieu m'a dit je dois faire ça, un coup Dieu m'a dit je dois faire ça. Toutes les années changent. Si ce n'est pas tous les 3 mois, si ce n'est pas toutes les semaines. Alors, je donne une règle. Il faut suivre et suivre et suivre et appliquer. C'est-à-dire en même temps, on imagine la manière dont les Hébreux, après avoir commencé quelque chose, vont l'achever. Et nous devons achever quelque chose que l'Éternel nous a donné à faire. Et on va voir un ensemble. Alors bien entendu que c'est dans la foi au Mashiach, l'enseignement doit rentrer, pénétrer, imprégner notre lèvre, notre cœur. Nos sages, les rabbinim, de tout temps, disent si ton cœur n'est pas imprégné, si ton cœur n'a pas reçu, n'a pas entendu la voix du maître, la voix d'en haut, alors il n'a rien entendu. Et ta vie va s'imprégner de plein d'autres choses. Et on va s'imprégner parfois plein de négatifs et de n'importe quoi. Et l'Éternel veut justement l'inverse, que nous soyons remplis des choses d'en haut. Des choses que nous ne connaissons pas dans nos expériences, mais qui nous amènent plus loin. Tout l'enseignement du Mishkan repose sur cette pensée. Faire construire une maison pour Dieu dans le monde matériel. Et la question peut se poser, est-ce que Dieu a besoin d'une habitation là, alors que lui, il remplit les cieux des cieux, et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, et qu'il est l'infini. Il est l'infini, il est l'être éternel. Comment l'Éternel va dire, construisez-moi quelque chose qui soit minuscule dans le point le plus bas de toute la géographie du cosmos, dans un endroit qu'on va appeler le désert, et qui n'a rien d'intéressant, qui n'a pas de richesse, qui n'a rien. La péninsule du Sinaï, c'est... Pour ceux qui sont venus en Israël, quand vous regardez la chaîne du Sinaï, c'est très beau, mais on n'a pas envie d'y vivre. On a envie d'aller à Eilat, à la mer Rouge. Et oui, parce que il nous faut comprendre que c'est là, dans ce lieu, qui n'est pas un pays réel, qui n'est rien, qui est une étape dans la vie des enfants d'Israël. Dieu dit, voilà, vous allez là, dans ce lieu, me construire quelque chose qui est en rapport avec le temps temporel, provisoire de cette sortie d'Égypte pour rentrer dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Alors le sens est dans l'intérieur du cœur et il dit, parce que ce que nous devons comprendre, ce n'est pas Dieu veut demande qu'on construise une maison visible et puis ça y est, on devient des idolâtres. Et on y met n'importe quoi. Et on fait n'importe quoi. Et on adore Dieu n'importe comment. Et on sert l'Éternel n'importe comment. Sans règle, avec chacun vient avec son cœur et il fait comme il veut. Ça c'est évangélique, ça c'est peut-être pastoral, c'est peut-être compréhensible dans d'autres lieux, mais dans la pensée d'Israël, non. Il y a quelque chose qui dit, on ne vient pas individuellement faire comme l'on veut, on va servir Dieu en fonction. Et Dieu établit au fur et à mesure des règles, et qui ne sont pas des règles, mais qui sont justement le moyen de le glorifier. Et ce mot-clé, enfin cette phrase-clé que l'on va sortir, c'est « Ils me construisent une maison là, dans le visible, mais en fait ce n'est pas là que je vais résider, parce qu'il est dit dans le chapitre 25, « Je résiderai, chacun, je résiderai, j'habiterai, je demeurerai à l'intérieur d'eux. » Et il nous démontre très bien que ce Mishkan qui est là, qui va être construit, le but n'est pas simplement d'avoir un rituel extérieur, un respect absolu dans une rigueur totale, qui parfois les règles rabbiniques nous ont alourdis, et parfois les règles qu'on trouve dans des églises aussi alourdissent. Hein, c'est vrai, hein, non ? Des fois, oui. Hein, et je n'ai pas pu m'empêcher. Il faut que je fasse attention. Et donc, nous voyons bien que le but, c'est qu'il réside en eux. Et non à l'extérieur d'eux. Mais par l'extérieur, il viendra à l'intérieur. Et ça, c'est tout l'itinéraire, tout le secret. Alors, je résiderai en eux. Alors, qu'est-ce que Yeshua, Paul, nous dit ? Que notre cœur, notre lèvre, notre être intérieur, ce qui n'est pas visible aux yeux des autres, eh bien, c'est que l'Éternel veut que notre cœur devienne le temple, un Beth Amikdash, un lieu de résidence pour lui. Et il dit qu'il veut être, et Paul le définit comme ça, même Yeshua d'ailleurs, mais la pensée claire, rabbinique de Paul, elle nous dit qu'il veut que justement notre cœur soit le temple de la Ruach HaKodesh. Et si on le traduit véritablement bien comme l'hébreu, il veut dire que le souffle divin sera à l'intérieur de ce Mishkan. J'ai ma tente extérieure, j'ai ma relation dans le visible, mais ce qui est important, ce n'est pas cette temporalité qui disparaîtra, cette dimension qui s'éloignera de moi, mais ce qui sera éternel, qui est dans ma nefesh, dans ma neshama, et qui nous amène justement à comprendre que le souffle de vie, le souffle divin est cette résidence que Dieu veut, non pas habiter une maison physique, mais habiter en eux. Construire, bâtir une dynastie en hébreu. Il veut construire une dynastie, c'est-à-dire une génération, où il sera en eux dès ce temps, jusqu'à la fin des temps. C'est ça, chacun. Ce n'est pas simplement dans l'histoire, mais c'est jusqu'à la finalité de l'histoire, jusqu'à la fin. Et donc, lorsque nous commençons à comprendre comme cela, alors la signification, quelle est-elle ? C'est qu'il s'agit de faire une maison pour Dieu, faire une maison. Il faut bien construire une maison. Et il ne s'agit pas de faire habiter Dieu dans le monde matériel. Et il faut bien comprendre ça, il faut sortir de cette idée que Dieu va venir, et puis que Dieu vient, et puis qu'il habite là, partout et nulle part. Vous savez, il y a les nulle part. Hein, j'aime bien les nulle part, moi, parce qu'on ne trouve jamais nulle part. Si quelqu'un peut me présenter nulle part, moi je veux bien aller. Hein, non ? Et donc c'est dans cette dimension que nous devons comprendre, notamment, que Dieu ne va pas habiter un monde matériel. Dieu n'a pas besoin, il a fait le Tzimtzum, il s'est retiré de cet univers. Et s'il vient dans cet univers, dans cette dimension de l'univers, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas simplement parce qu'il trouve Moshe gentil et beau. ce n'est pas simplement parce que, quelque part, il a vu un certain nombre d'injustices dans l'univers et dans le monde, qui durent depuis des siècles, parce que, tout simplement, il voudrait rétablir quelque chose. Non, il y a un but. Il y a un but très précis qui va se définir. Dieu ne veut pas habiter dans le matériel et dans le monde, dans le cosmos, même sur le point le plus bas de l'univers qu'est la Terre, le dernier point de l'existence du cosmos. Mais il est, lui, l'infini, et il va résider dans le fini. Et là, ça prend une dimension, parce que du fini, on va aller dans l'infini. Et c'est ça, la rédemption. Du fini, on va aller dans l'infini. Et non faire venir l'infini pour devenir fini. Mais du fini à l'infini. Et le Seigneur nous démontre que le temporel va s'estomper par rapport à ce qui est éternel. Le but est que celui qui sert l'éternel devienne un réceptacle. Un réceptacle. Une véritable tente, une maison où Dieu règne, où Dieu habite. Pas simplement où on sent sa présence. Un faux concept. On ne sent pas, il n'y a pas d'odeur. On ne sent pas la présence de Dieu. On la vit. Elle réside, elle habite, mais on ne la sent pas. Parce que si je prends cette expression, je sens ta présence, ça a passé, puis après tu sens quoi? Tu sens plus rien, tu sens le vide. Tu ne sens pas la présence de Dieu, tu la vis et elle t'habite. Et à partir de ce moment-là, elle transforme, elle change, elle modifie toutes les données. Le but, c'est justement que ce réceptacle que nous représentons, que nous sommes, soit rempli et non vide. Mais nous pouvons être une maison vide, une maison non habitée. Alors, regardez bien les erreurs parfois que la théologie a malheureusement établi un certain nombre de choses, et je vais m'éloigner après un peu de ces choses, mais je voudrais donner quand même les orientations. Lorsque Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit », vous pensez qu'il pense à quoi? Vous pensez qu'il pense simplement à un truc qui va se manifester en une heure de louange et qu'on ressent et qu'après, une fois visité, il n'y a plus rien? Combien vivent la permanence de Dieu? C'est ça la vraie question. Combien vivent la permanence du divin? C'est que je peux dire « je suis rempli de l'Esprit » le temps que j'estime être rempli et vide après. Et Paul dit, regardez bien, les vraies dimensions de cette habitation de Dieu, quand il dit « soyez remplis », il ne dit pas « soyez remplis de charismatisme, du mouvement charismatique, ne soyez pas remplis de dogmes, ne soyez pas remplis de philosophie humaine, ne soyez pas remplis de pratiques humaines ». Il dit « soyez remplis du souffle divin ». Soyez remplis du souffle de vie. Et ça n'a rien à voir avec les espèces d'exaltation, même de transe. Mais là, Paul nous conduit, c'est dans Éphésiens 5, et il nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Et ensuite, il dit, parce que ça deviendra une maison de louange. Parce que cette habitation sera habitée par la tephila. Elle sera habitée par la sainteté. Elle sera habitée par le chant. Tout ce qui va faire les brachot, c'est-à-dire les bénédictions, tout ce qui va construire la maison de Dieu. Soyez remplis, ça veut dire que justement, on devient séparés. Et il dit, et c'est clair que le contraste est présent, ne soyez pas remplis de vin. Ne soyons pas remplis de choses qui égayent ou qui font plaisir à la chair, à la dimension matérielle, remplie de vin, de spiritueux, si vous préférez, parce que c'est de la débauche. C'est-à-dire que nous pouvons être remplis de plein d'autres choses que du souffle divin. Et nous pouvons l'appeler esprit. C'est ce qu'il dit. Ne soyez pas remplis de vin. De la vapeur, hein, en grec, et du spiritueux, d'inhaler les choses. Parce que ça étourdit le sens, la conscience. Et Paul est très, très clair là-dessus. Soyez remplis d'en haut. Mais sur quel modèle? Dans quelle dimension? Et c'est là qu'à un moment donné, on va construire. Parce que si nous devenons un réceptacle de cette rouard, de ce souffle de vie, et non de la matérialité ou des choses périssables, des choses qui passent, les joies qui passent, tout ce que vous voulez, qui ne dure pas, mais qui dure un instant. C'est ça la temporalité. Combien de temps dure la joie d'avoir prié Dieu? Ça, c'est très rabbinique. Combien de temps après la joie d'avoir prié Dieu dure chez toi? Quand tu as prié, tu dis « Oh, merci Seigneur, c'est merveilleux !» Puis après, tu retournes à tes préoccupations, puis tu as oublié. Et la joie que tu avais n'est plus. Et c'est ça que Paul veut dire, c'est qu'il y a une continuité. Quand tu pries, la joie demeure, elle continue. Tu es toujours dans cette pensée de vie, même s'il y a plein d'autres choses à côté. Alors, on va aller au fur et à mesure un peu plus loin. Le début de la paracha, justement, elle commence par la terouma, de prélever de l'argent, de l'or, des matériaux, pour construire un sanctuaire pour Dieu. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. C'est exactement Shemot 25:8. Alors, veut dire qu'il est dans chacun. Et c'est aussi quelque chose qu'on doit comprendre. Regardez. Il y a peut-être un petit secret à réaliser. On va lire dans Yohanan, dans le chapitre 17, et on va lire à partir du verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Yeshua, Mashiach. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » C'est exactement ça. « Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ton davar. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis issu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Alors, après, il y a la prière, bien entendu, et il dit justement que, comme lui est avec Dieu, lui est en nous. C'est là qu'il faut comprendre les choses. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, dans le cosmos, pour être exact dans la traduction grecque, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Afin que tous soient échad, un, comme moi, c'est le verset 21, pardon. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Waouh ! Un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais déjà, nous voyons que dans cette prière dite « appelée sacerdotale », elle est en rapport avec le Mishkan. On ne peut pas appeler ce chapitre 17 « prière sacerdotale » si elle n'a pas un rapport avec le sacrificateur. Si elle n'a pas un rapport avec le sacerdoce. Si elle n'a pas un rapport avec quelque chose qui révèle réellement toute la dimension du tabernacle et du Mishkan. Donc la prière sacerdotale, elle est extraordinaire, parce qu'elle nous montre que ce qui va devenir Echad, ce n'est pas simplement le mélange que l'on va faire, mais à partir du moment où Yeshua Mashiach va nous garder, et que nous soyons en lui, et que lui soit en nous. et que ce n'est pas simplement de la visitation, du passage, mais une habitation, un lieu de résidence, un lieu qui est habité. Alors on va aller, au fur et à mesure, un peu plus loin. Il donne sa ruach et la construction de l'Ecclésia. Quand on parle, et il faut bien comprendre, nous, en tant que juifs, mais sur le plan historique, dans l'authenticité de l'histoire, l'Église est venue, en terminologie telle qu'on le conçoit aujourd'hui, quand on emploie le mot « Église », il n'existait pas. Le mot « Église » n'existe pas dans la Nouvelle Alliance, dans aucun passage. Vous pouvez dire ce que vous voulez, l'appeler comme vous voulez, et en faire ce que vous voulez. Aucun passage en grec ne mentionne le terme « Église », mais « Ecclésia ». Et je crois que même Hélène, qui est quand même un peu plus spécialiste que moi dans l'exégèse grecque, elle peut vous le confirmer. Elle traduit la Bible pour le Togo. Donc c'est dire qu'elle doit savoir, hein, mieux que moi. Quand j'ai des doutes, je m'adresse à elle. Et donc, il faut bien comprendre que Yeshua, à partir du moment où nous avons vu, il va construire dans ce monde, dans cet univers, dans ce cosmos, non pas simplement quelque chose qui va être à nouveau en rapport avec uniquement le peuple d'Israël, mais dans la dimension universelle de toutes les nations. Il va construire le corps du Messie. Il construit son propre corps. Il construit son propre Mishkan, le propre tabernacle, celui qui n'est pas fait de main d'homme. Vous comprenez? Et c'est pourquoi même l'Épître aux Hébreux nous entraînera dans toute cette dimension. Même le livre de la Révélation et de l'Apocalypse nous révélera les dimensions extraordinaires. Et lorsqu'il nous est parlé de l'Ecclésia, ce sont les gens du dehors qui entrent, qui vont entrer par la porte et qui vont justement être dans ce domaine. Et il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs termes qui sont utilisés dans la Nouvelle Alliance pour définir l'Ecclésia. Et l'Ecclésia, c'est un terme parmi d'autres termes. Ce n'est pas l'unique terme. Le terme principal dans la pensée réelle, c'est construire un corps, le corps du Messie, du temps à partir du Mashiach de Yeshua jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la révélation du Messie, inclut Israël, les Juifs et les nations qui seront inscrits, inclus dans cette dimension du règne du Messie, qui sera dans les temps de la fin. Et il faut bien comprendre que jusqu'alors, les nations n'avaient pas part, n'avaient pas droit à l'alliance. Elles étaient hors de l'alliance, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et comprendre quelles sont les bases, puisque nous sommes dans Terouma, nous sommes dans le départ. Ils donnent de l'argent, ils donnent de l'or, ils donnent des matériaux, ils donnent toutes sortes de choses pour que ce corps, pour que le Mishkan se construise. Et il nous faut savoir que ça va reposer sur des bases. L'alliance d'Israël constituera quelque chose de particulier. L'Ecclésia, elle n'est pas bâtie sur le dogme de Nicée. Elle n'est pas bâtie sur la pensée humaine, philosophique, gréco-romaine, pagano-chrétienne. Elle est construite sur la révélation et de l'alliance. Et on va plus loin. C'est qu'il nous est dit que le fondement de cette construction du corps du Mashiach, c'est que c'est Yeshua lui-même, la pierre angulaire, là où la pierre est née à Tzion, là où avant la fondation du monde existait déjà. Et Dieu avait déjà choisi un lieu dans tout le cosmos, dans tout l'univers, dans toutes ses dimensions, dans toutes les dimensions de l'espace-temps. Il a choisi Tzion, il donne un nom, Tzion. Et c'est à Tzion qu'ils sont nés, psaume 87. Et c'est là que tous sont nés. Et c'est là que les nations viendra, dans le lieu de naissance ou de renaissance. Et vous voyez, là, c'est une dimension complètement différente. On va aller encore plus loin. Et je crois que c'est extraordinaire, parce que quand on commence à comprendre ça, c'est Yeshua qui est la pierre angulaire, le fondement, le roc. Et il est les roches-pines sur lequel tout va se construire, le passé, le présent, le futur. Tout a été fait en lui, par lui, pour lui. Et Quelque part, il nous faut comprendre que notre futur n'est pas dans les allusions approximatives que les hommes font, mais dans la réalité de ce qui est établi dès les temps de l'éternité. Et là, on sort simplement du concept sympathique, affectif, de quelqu'un qui est gentil, qui dit des gentilles choses, des jolies choses, qui est agréable, qui est mignon, mais sur lequel Dieu n'a pas construit, dans lequel le souffle divin ne va pas plus loin que ce que nous allons entendre. Et ça n'ira pas plus loin dans votre vie, ça ne cheminera pas dans votre cœur, ça ne vous amènera pas dans les années à venir. Ça vous construira simplement une émotion du moment que vous allez oublier dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Qui peut se rappeler les émotions d'il y a 20 ans? On se rappelle des temps forts, mais de tout ce qu'on a pu vivre, on ne se rappelle pas. On a une mémoire, on peut essayer, on va se rappeler des coups durs, on va se rappeler des bons moments, on va se rappeler des bribes. Comme si notre mémoire était avec des crevasses, des trous, hein, il y a des absences. Et vous savez, en psychologie, on appelle aussi, au niveau de l'identité, l'absence de la mémoire qui fait que, justement, ben, on n'est plus rien. On existe par des morceaux de l'existence dont on se rappelle et on construit là-dessus. Et toute notre intériorité se bâtit là-dessus. Alors, quand on veut aller plus loin, justement, nous devons réaliser que si Yeshua est la pierre angulaire, il est le Mishkan qui n'est pas fait de main d'homme. Le fait de construire un Mishkan après la sortie d'Égypte et justement juste après le don de la Torah et de nous amener, comme je crois que Xavier a dit tout à l'heure par rapport à Mishpatim, a pour but d'amener la sainteté. Ça, c'est une nouvelle dimension. C'est une dimension qui n'existait pas dans le monde et dans l'univers. La sainteté de Dieu dans ce monde, ce que chaque croyant est appelé, amené à révéler, à vivre et à faire. C'est révéler la sainteté de Dieu. Vous croyez que c'est simplement parler de dogmatique, de confrontation d'idées, d'être dans le débat philosophique, de discuter sur les choses, d'entrer dans simplement des confrontations d'idéologies. Et puis ensuite, parce que la philosophie c'est ça, c'est qu'en fait elle confronte les idées, mais quand on repart, il n'y a rien qui change. Et ça c'est le débat philosophique. Et c'est ce que les juifs n'aiment pas, c'est que le concret est absent. Or, lorsqu'il est dit que quelque part Dieu va établir les règles pour la sainteté, c'est que nous devons révéler un Dieu saint, et non un Dieu mélangé les viandes, mais on pourrait aller plus loin. Non pas un Dieu qui se mélange dans toutes les dimensions de l'univers et du cosmos. Il sépare, à partir du moment où il vient, il sépare cet univers, ce cosmos, qui est sous la condamnation, qui est dans la mort. Lui, il est la vie, et il sépare, d'où la déchirure du temps, et qu'il amène la révélation extraordinaire de Dieu. Mais quand on va encore plus loin, c'est que les matériaux qui sont utilisés, et c'est là qu'on doit commencer à comprendre ce qui doit se construire. Un Mishkan matériel, et les matériaux vont être matériels. Ils vont être vrais. Hein? Ça ne va pas être du spirituel. Vous savez très souvent, « Oh Seigneur, donne-moi un cœur pur. Oh Seigneur, fais de moi un instrument. Oh c'est d'une... » Non, non. Donne-lui. Vous comprenez la différence? Toujours on dit, « Seigneur, donne-moi la puissance. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi le machin. » Donne-moi pour l'autorité, donne-moi, 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 donne-moi. C'était Enrico Macias qui chantait ça. Ouais. Mais Dieu dit, arrête de dire donne-moi, et dit, je te donne. C'est Goldman qui disait, je te donne. Pas dans le même sens. Mais on comprend bien que on nous a appris même à prier faussement, en disant toujours « j'attends, je et donne ». Tu donnes, j'attends. Si tu donnes pas, tu m'aimes pas. Méchant Dieu. Alors je donnerai moins la semaine prochaine. Je te donne. Je t'apporte mon matériel. Je t'apporte ce que je suis. mes membres, ma pensée, mon intelligence, ma nefesh, je t'apporte tout, l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur ne sera que le reflet de ce que tu feras à l'intérieur. Et quelque part, voilà, nous devons comprendre que c'est au travers de cela que l'Éternel veut nous faire comprendre que le cœur, ça se construit, le lev, la pensée, ça se construit. L'identité, ça se construit. Et tout est en relation avec le Mashiach. Alors le mystère et la particularité de Terouma, c'est que l'on commence par l'intérieur. Vous allez remarquer, quand vous lisez le chapitre 25, on donne tout et on commence par quelque chose qui n'est pas logique dans le principe de construction. C'est que tout de suite, il nous est mentionné l'arche. La première des choses que... Pardon ? Oui, le Saint des Saints, bien sûr. Ce qui va abriter les tables de la loi hein, et qui va constituer le cœur, hein, le cœur, la centralité de l'existence du Mishkan, qui plus tard deviendra le Beth Amikdash, le lieu très saint, le lieu impénétrable, le lieu inaccessible. Et c'est très bizarre parce que, quelque part, toute construction se fait de l'extérieur à l'intérieur. On construit d'abord tout l'environnement et on commence à bâtir et puis on avance progressivement. Là, c'est l'inverse. On part de l'extérieur. Et regardez bien la logique de la dynamique dans la dimension du temps. Dieu va partir de ce point vers l'extérieur pour que nous, ceux qui vont entrer dans ce Mishkan, entrent dans ce qui est éternel. Vous avez capté ? L'Arche d'Alliance va constituer l'éternité de Dieu, la puissance extrême de Dieu, le pouvoir sur tout l'univers, même sur le jour de Yom Kippour, où toutes les armées des anges déchus sont neutralisées. Pour ceux qui ont toujours peur, il y a un jour au moins où ça va mieux. Et là, il nous fait rentrer dans sa présence. Mais il faut que sa présence soit d'abord, qu'elle rayonne, qu'elle rentre dans notre cœur, et qu'ensuite il y ait le répondant pour que nous venions dans sa présence. Et à partir de ce moment-là, on est dans le dévoilement, dans la révélation. Qui peut comprendre le pardon si Dieu ne nous le révèle pas ? Comment comprendre Yom Kippour ? Comment comprendre que Dieu peut me pardonner alors que rien ne peut, quelque part, me montrer ce que veut dire un pardon dans l'univers ? Un pardon pour l'éternité. Le mystère, c'est que Terouma nous amène justement à ce mouvement de l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur, pour que de l'extérieur du monde, on aille dans le monde d'en haut, du monde d'en bas. Du monde d'en haut, il vient dans le monde d'en bas, pour que le monde d'en bas puisse avoir une relation avec le monde d'en haut. Et ça, c'est toute l'œuvre de Mashiach. Tu m'as envoyé. Eh oui, Mashiach est venu nous réconcilier. Et comment vous croyez que c'est possible ? Vous croyez que c'est possible simplement par une prière ? Non, il faut plus qu'une prière. Je suis désolé si je viens heurter vos théologies ou vos croyances, mais ce n'est pas une prière qui sauve. Jamais il est écrit qu'une prière sauve. Mais elle nous conduit dans la connaissance de celui qui sauve. Et donc, quand on commence à rentrer dans cette dimension, nous allons voir maintenant, alors là c'est le vrai mystère, et je savais que j'allais tomber en plein dedans, que ça n'allait pas être la bonne heure, mais tant pis, on va être dans le bonheur. On commence par l'arche d'alliance dans Shemot 25-10. « Vous me ferez une arche en bois de chitim. » Alors là, je dois avouer que malgré le fait que j'ai beaucoup étudié, et que ça fait des années, là, je suis tombé dans quelque chose où je me suis dit, si je commence là-dessus, j'en ai pour un an, rien que sur deux versets. Un an. Donc je vous donne seulement le brouillon, l'introduction, mais j'étais bouleversé, j'arrivais plus à m'arrêter. Et la gloire, c'est quand on est dans la gloire. Alors le bois de Chittim, c'est... Je pense que pour certains c'est connu, c'est ce qu'on appelle aussi le bois de la folie. C'est un bois qu'on appelle le bois de la folie. Et pourquoi Dieu veut être construit par un bois de la folie et que, justement, à l'intérieur de ce bois de la folie soit de l'or? Pourquoi de l'or non visible? Pourquoi le bois doit recouvrir l'or par un bois de folie, un bois de chitim? Et donc, au travers de cette réalité, Dieu est en train de créer un épicentre spirituel par l'arche, l'épicentre spirituel du salut, l'épicentre gravitationnel même, on pourrait dire un centre de gravité de la rédemption, ne va pas être n'importe où. Il ne va pas être sur la croix d'une église catho. C'est pas là-bas. Il est à Golgotha, il est à Jérusalem. Il est en Israël. Et il est véritablement présent là-bas. Alors ce centre de gravité, ce centre de la rédemption pour toute l'humanité même dans les générations futures, eh bien, est Israël. Et d'Israël, cet épicentre, hein, c'est que d'Israël, le salut entrera dans les nations. Ce n'est pas l'Église qui sauve Israël. N'est pas l'Église. Lo. Les Juifs n'ont pas à rentrer dans les entités comme ça. C'est à Jérusalem qu'on doit aller. À Yerushalayim. Dans le lieu, dans l'épicentre spirituel de la révélation. Et du salut, de la rédemption. Le salut n'est pas, comme on l'entend parfois en théologie, dans l'Église. Il est en Yeshua. Amen. Celui qui bâtit le corps, son corps. Il est dans le Mashiach. Totalement. Et on va voir que c'est extraordinaire parce que lorsqu'on parle de ce bois de Chittim, on est dans une réalité qui est époustouflante. Parce que lorsque on comprend le fonctionnement à cause de la grande diaspora après 70 de notre ère, on a l'impression que l'Église, enfin que les dogmes humains, ont déplacé l'épicentre en disant c'est l'Église qui remplace Israël. Et c'est l'Église qui devient le maître du salut. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais je pense que ça se comprend. Et que finalement, on fait la mission, on fait toutes sortes de choses, et Israël n'ayant plus, à leurs yeux, une existence, eh bien les Juifs, comme les autres, doivent être sauvés, doivent rentrer dans l'Église. Mais heureusement que Dieu redonne la révélation, que quelque part, vous allez voir, l'Éternel nous amène à autre chose. Cet épicentre est un lieu où réside, habite la Shekhina, la présence. Parce que la grande différence, c'est la présence de Dieu en Israël. C'est le fait que Dieu a habité par son nom, par le Beth Amikdash, mais qu'il a habité parce que sa présence est venue. Et quand le Mishkan a été fini, la colonne de nuée, elle allait où? Sur l'arche. Le monde d'en haut descendait dans l'arche d'alliance et elle descendait au milieu entre les deux kérouvim et personne ne pouvait rentrer dans ce lieu quand la Shekhina était là. Quand elle marchait, le peuple suivait, quand elle s'arrêtait, tout le monde s'arrêtait. Et Dieu a dit, mon nom ne va pas résider simplement dans la temporalité du passage du désert, mais quand elle s'établira, tu me construiras une maison. Mais Dieu dit à David dans Deux Chroniques qu'il est, c'est pas toi qui vas me bâtir une maison. Moi, je te bâtis une maison, une dynastie pour le futur, dont la royauté, le règne de David, le fils de David, régnera. Et à partir de ce moment-là, on voit que c'est en Israël le lieu de l'accomplissement du futur. Réside, habite la Shekhina, le Mashiach, justement nous amène à réaliser au verset 13, parce qu'il est dit, justement, ben on va le lire, hein, Shemot. Vous allez voir dans quoi on va rentrer. Aïe. Shemot 25, verset 13. Tu feras des barres de bois d'acacia, c'est pareil que Chittim. Hein, en hébreu, il y a... Et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. On va s'arrêter là. L'arche doit être faite d'atse chitim, de bois de folie. Parce que chitim veut dire fou. Mais fou, comment vous le comprenez, vous, fou? Quand vous dites que quelqu'un, il est fou, c'est qu'il n'est pas normal. Jusqu'à la preuve du contraire. Mais dans l'hébreu, ça ne veut pas toujours dire que quelqu'un lui, manque d'une case. Fou, ça veut dire insensé. Celui qui n'a pas de sens, d'orientation, qui va dans tous les sens. L'insensé, c'est celui qui ne sait pas et qui ne saura jamais, parce que tous les sens sont en lui. Et toutes les directions, il les épouse. Or là, nous voyons qu'il y a quatre anneaux. Deux barres, Israël, Mashiach, Ecclésia, le corps du Mashiach qui porte l'arche. Ce n'est pas l'Église seulement. Ce n'est pas l'Ecclésia. Ce n'est pas Israël seulement. Et là, je suis d'accord avec Rabinovitch pour une fois, que c'est avec les nations que se construit la rédemption et qu'elle doit aller vers les nations. Je ne suis pas d'accord avec tout, avec lui, et loin de là. Mais il y a quand même une chose que nous devons comprendre, ces deux barres, marquant les quatre dimensions de l'espace, marquant les quatre points cardinaux, marquant les quatre extrémités, les quatre vents de l'esprit, etc. Tout est en rapport avec cette centralité, et que ce n'est pas uniquement un homme, des hommes, un dogme, quelques entités, quelques mouvements qui portent la rédemption. La rédemption, elle est à l'intérieur du Mashiach. C'est le Mashiach, notre rédemption. Et ceux qui le portent, c'est qui ? Israël, qui est venu en premier, qui a reçu cette révélation, qui l'a transmise, et qui, à la fin des temps, seront réunis ensemble devant le règne du fils de David. Dans le règne de ce fils. Alors, regardez maintenant, on va aller dans quelque chose où je pense que c'est important, parce que lorsque nous parlons justement du fou, de l'insensé, de celui qui perd le sens, de ce bois de chitim qui recouvre l'or, qui le cache, comme si l'or ne devait pas être vu. Et puis en même temps, on pourrait se dire, mais l'arche, c'était quand même l'élément essentiel, principal. Pourquoi pas tout en or? Pourquoi cacher des parties et d'autres pas? Et donc, cela va nous révéler beaucoup de choses extraordinaires. Donc, quand on va comprendre la tzitchitim, là on va commencer à rentrer dans quelque chose. On va lire dans 1 Corinthiens pour nous aider à comprendre ce que veut dire en hébreu ce mot bois de chitim, tzitchitim, folie, parce qu'il est extraordinaire. Et nous allons comprendre que ceux qui sont dans cette folie, dans le bois de chitim, ce sont ceux qui sont dans le contraire de la logique du fonctionnement du monde. On va lire, je crois que ce sera plus simple. 1 Corinthiens 1, et on va lire à partir du verset 17. Ce n'est pas pour la Tevila que Mashiach m'a envoyé, c'est pour annoncer la Bessora Tova, et cela sans la sagesse du langage. Là, on touche la réalité. Afin que Golgotha, la croix du Mashiach, ne soit pas rendue vaine, car la prédication de Golgotha est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, et Paul se réfère au Mishkan, il n'invente pas la doctrine de l'Église. Il se réfère constamment en tant que rabbin à la Torah, aux Nevi'im, aux prophètes. Il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Ça, c'est le voici. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Mashiach. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Ah. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu, ah, là on touche le cœur, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Et là, or c'est par lui que vous êtes en Yeshua Mashiach, qui par la volonté de Dieu, le Messie et Dieu ne sont jamais dissociés, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans Hachem, dans le Seigneur. Et quand on commence à regarder à la Saint, croire aujourd'hui qu'il y a un Dieu, croire aujourd'hui que Dieu existe, croire que Dieu va revenir au travers du Mashiach, est une folie pour les raisonneurs de ce siècle, pour les intellos, pour tous ceux qui sont dans même la philosophie, même les hommes politiques. Lorsque l'on dit « nous attendons le règne du fils de David », on vous prend pour un malade. Il ne faut pas croire qu'ils vont vous prendre pour des gens super merveilleux. Ils vous prennent pour un malade mental, parce qu'eux, ils n'attendent pas du tout ça. Et puis en même temps, ils marchent sur d'autres choses. Ils attendent la richesse, ils attendent l'amélioration économique, ils attendent un messie cosmique, ils attendent une réincarnation de quelque chose, ils attendent plein de trucs. Mais lorsque nous commençons à dire, et c'est ça le bois de Chittim, Atzé Chittim, eh bien, nous attendons aujourd'hui, nous prions pour que le fils de David, le Tzemar, le germe, vienne établir son règne. Mais c'est ça le bois de Chittim. Nous sommes fous parce que nous croyons en un message, en une prédication, en une réalité du futur, en un accomplissement qui est contraire à la philosophie. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'est pas. Hein. Aujourd'hui, on nous dit, il n'y a pas. Hein. Mangeant, buvant, car demain nous mourrons. C'est un beau programme, hein. D'ailleurs, si tu manges trop et si tu bois trop, tu crèves avant l'heure. C'est simple. Dieu qui existe est une folie pour les hommes, mais elle est la sagesse d'en haut. Elle n'est pas diabolique, comme dit Yaakov. Croire en la venue du Messie, c'est vraiment la plus grande de toutes les folies. Croire en quelqu'un qui va venir du ciel. Vous croyez que c'est extraordinaire, mais oui. Croire dans le règne de Yeshua. Mais c'est ça, porter l'arche. L'arche d'alliance du Mashiach. Elle est une folie. Il nous faut beaucoup de Hatzéchitim. Parce que c'est ce message, cette prédication qui fait la différence avec la philosophie du monde qui n'attend rien, qui attend la destruction, qui attend la fin de la planète, qui attend tout un tas de choses qui sont même en train de détruire la planète. Et c'est pourquoi, lorsque nous commençons à comprendre que la folie des hommes, c'est de dire qu'il n'y a pas de Dieu, l'insensé, le naval en hébreu, va encore plus loin. Ce n'est pas seulement celui qui perd le sens, ce n'est pas celui qui n'a plus d'orientation, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas la compréhension de l'existence et qui est complètement mélangé, on va dire, dans la confusion. Le naval, c'est celui qui, justement, n'a pas de direction dans son existence. Il ne sait ni d'où il vient, ni pourquoi il est là, et ni où il va. C'est exactement, même si c'est philosophique, mais c'est exactement cela que ça veut dire. C'est qu'à un moment donné, le naval, c'est celui qui a perdu la sève. C'est-à-dire, il a perdu l'essence de la vie en lui. Il n'a même plus la vie, donc il ne vit plus. Il survit à la vie. Il survit dans une existence parce que déjà mort. Avant de mourir, il est déjà mort. Il est dans l'anéantissement. Il est dans le tohu vavohu. Il est déjà dans ce qui amène au chaos. Et lorsqu'on commence à comprendre cela, eh bien, il y a deux psaumes qui m'ont bouleversé quand j'ai découvert ça. J'ai dit, c'est pas possible. Lorsque vous lisez le psaume 14 et le psaume 53, ils sont identiques. Et la question que je me suis posée, je n'ai pas vraiment une réponse, c'est pourquoi y a-t-il deux psaumes identiques et qui disent la même chose? Vous voulez, on le lit, hein, psaume 14, Tehilim, si vous préférez, hein, psaume 14, et à partir du verset 1, bien entendu, parce qu'il est extraordinaire. L'insensé, le Nabal, dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, c'est ce que je vous disais. Hein. Tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est pourquoi, c'est alors qu'ils tremperont d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Oula. Ma. Quand on lit, tu peux me le traduire en hébreu, Tal? Parce que je n'avais même pas fait attention. Paraîtra. Le verset 5, mais il peut être différent dans l'hébreu. La race des justes paraîtra quand Dieu paraîtra. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, regardez bien ce que je vous disais. Oh, qui fera partir de Tzion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Tehilim 14. Et autrement, hein, le 53. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rachetés. Oh, qui fera partir de Tzion la délivrance quand Dieu ramènera les captifs de son cœur, de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Amen. Et vous voyez, là, il faut que j'approfondisse même ça. Ah là là. Et donc, ça nous démontre que c'est pourquoi nous devons avoir des bases solides dans le Messie, pas dans le dogme. Parce que le dogme change. Aujourd'hui, la croyance, elle a changé en 2 siècles. En 1 siècle, en 50 ans, tout a changé. Ce que, il y a 50 ans, les gens croyaient, ne le croient pas de la même façon aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce n'est pas fiable. Tu feras en bois être accraché. Et le verset 10 nous dit Vetsibita et Zahav Taor. D'or pur. D'or pur. Zahav Taor. D'or pur. Tu le recouvriras, tu mettras l'or pur, mais il sera recouvert. D'or pur. Ce bois de folie d'or pur, qui par définition est le symbole de ce qui est immuable. L'or, c'est véritablement l'immuabilité. L'or est la gloire de Dieu qui se révèle dans sa justice, sa sainteté, la vérité, la sagesse et la puissance. Taor, qui donne le sens pur, nous démontre réellement tout ce qui a été construit en or dans le tabernacle, le propitiatoire, les kérouvim, etc. Tout n'a pas été en or. D'où le fait de bien comprendre dans la construction l'importance des matériaux. La table des pains, comme l'a lu tout à l'heure Xavier, la menorah, l'autel, là où on mettait aussi la kétorette, le parfum agréable à l'Éternel pour entrer. Mais le terme, tzipita, en hébreu, il est intéressant parce qu'il est dit, justement, tzipita, c'est tu recouvriras. Ah, dans l'hébreu, le sens de l'espoir. Tzipita, dans l'hébreu, veut dire aussi avoir le sens d'espérer. Et tu ne peux pas espérer dans le passé, parce que le passé, il est mort. Il est fini, il est terminé. Tu peux essayer de remonter le temps, même dans ta pensée, dans tes souvenirs, dans ta mémoire, et essayer de repenser à tout, et tu ne peux rien faire. Tu n'as aucun pouvoir, aucune puissance. Rien ne peut modifier ton passé. Rien ne peut le changer. Même si tu le veux de tout ton cœur, de toute ton âme, avec 80 jours de jeûne et de prière, comme ça tu meurs au moins. Mais, ben oui. Parce que ton passé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas le modifier. Mais par contre, l'intelligence d'en haut, c'est de dire, oui, le passé, tu ne peux rien. Le passé est mort. Mais l'espérance fait vivre. Vous comprenez ? Ce qui fait vivre, c'est vrai que c'est un dicton aussi, c'est l'espoir qui fait vivre. Mais l'espoir dans l'hébreu, ça n'a pas du tout la même connotation. Et elle nous amène même beaucoup plus loin. Parce que, justement, il y a un jeu de mots dans la même racine que Tzipita. Lorsqu'on commence à aller dans la profondeur de l'hébreu de Tzipita, de ce « tu recouvriras l'or pur ». L'or pur, cet or pur ne doit pas être touché par l'humain. Il doit être simplement porté. Mais il y a, dans Tzipita, ce recouvrement, il y a le terme tsofé. Et tsofé, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire un guetteur qui voit de loin. Et il voit de loin, il voit quoi? Et quand il dit, justement, qu'il y en aura quatre qui porteront l'arche d'alliance, et qu'ils seront les témoins du Mashiach, ceux qui vont le porter dans un premier temps dans leur peuple, dans leur gène, dans leur vie, dans leur pratique, et qui vont révéler à toutes les nations l'identité du Dieu Echad, et que le deuxième va se greffer pour porter le Mashiach, pour qu'il amène le règne de David, et que l'accomplissement total et final de tout ce que Dieu a établi va se réaliser. Et il est dit, justement, le tsofé, le guetteur, c'est qu'il y a deux choses. Il y a deux choses parce qu'il voit de loin. Il voit d'abord les ennemis qui se rapprochent et il voit la venue du Mashiach. Il voit la venue du Mashiach. Ce qui conduit à voir sans encore distinguer. C'est-à-dire que nous croyons plus dans le futur que dans le passé ou que dans le présent. Nous pouvons avoir cette vision extraordinaire de se dire, oui, et c'est là la Mida, c'est là l'attente du Mashiach, de la maison de David, et de dire ce que Yohanan disait, viens, Maranatha, établis ton règne, que cela soit établi. Combien attendent dans leur cœur, dans leur Mishkan intérieur, la venue du Mashiach? Aujourd'hui, nul pasteur, la plupart, 80% peut-être, de mouvement ne parle même pas de ce règne de David. Ah, il vous parle du règne des démons. Ouh. Comment Satan règne chez vous? Et ça, on en parle. Constamment. À outrance. On a l'impression que le vrai message de l'évangile, c'est ça. Mais que Dieu ne nous sauve plus, qu'on est toujours attaqué, et qu'il faut toujours prier pour être délivré, toujours aller à l'imposition des mains. Et l'Éternel nous dit non. Elle nous dit, c'est dans le Mashiach. Et il nous dit, celui qui a l'attente, celui qui attend le fils de David, il a déjà établi le royaume en lui. Ken. Et c'est ce qui est extraordinaire, parce que celui qui va prier, c'est prier dans le futur. La véritable intercession, c'est celui qui connaît les desseins de Dieu. C'est celui qui connaît l'accomplissement. Il peut prier parce qu'il voit ce qu'il va se faire. Et vous allez voir que dans le judaïsme, mais dans la pensée d'Israël, dans tout ce domaine hébreu, il y a l'enseignement des talons du Mashiach, qu'on a vu un peu en bribe à un moment donné. C'est tout ce qui précède la venue du Messie. Qu'est-ce qui précède la venue du Messie aujourd'hui? La confusion économique, la confusion politique, la confusion à tous les niveaux nous démontre que on ne voit plus que les ténèbres, mais c'est là justement tout le paradoxe, c'est que les ténèbres vont s'épaissir comme dans l'Égypte à Pessah. Car c'est le 14 de Nissan que Mashiach reviendra aussi. Et les ténèbres vont tellement s'épaissir que l'homme ne verra plus le futur. Il verra plus, il aura, autrement dit, plus du tout la compréhension. Et il va plonger dans ce monde de ténèbres. Et justement, Chaque fois que nous sommes dans les épreuves, dans les difficultés, dans les souffrances, chaque fois que nous passons par des moments difficiles, chaque fois que la nation passe par un moment difficile, chaque fois qu'il y a des tribulations, quand nous avons vécu la Shoah, quand nous avons vécu les persécutions dans l'histoire, quand vous en avez peut-être vécu ou vos pères, eh bien, chaque fois, c'est des moments de ténèbres. Et on n'attend rien. Qu'est-ce qu'il y a derrière, quand on vit ces événements? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on a l'espoir de quelque chose qui va être mieux? Et c'est ça. Le secret d'Israël, c'est que ces périodes sombres de l'histoire, les vrais prophètes, je parle des Néviim, je parle des prophètes sanctifiés, je parle de ceux qui ont la parole d'Avar en eux, eh bien, quand ils prient, ils voient. Vous voyez, ils ne font pas que parler à Dieu. Ils ne font pas que dire des choses qui n'ont pas de sens à Dieu. Des choses qui sont complètement hors propos lorsqu'il parle à Dieu. Et que Dieu, en même temps qu'il fait connaître son col, il montre, il voile, il dévoile. Et c'est comme ça que Ézéchiel, Daniel, et que Daniel a eu la révélation du Mashiach, fils d'homme. Oh, c'est extraordinaire si on rentre là-dedans. Le Mashiach qui vient d'en haut et qui va établir son règne sur la base du calcul mathématique des 70 semaines. Baruch Hashem. Quand tu rentres là-dedans, mais tu es dans l'extraordinaire. Et qu'il y a les temps de Dieu. Et ceux qui prophétisent aujourd'hui, ceux qui disent avoir la révélation de l'Éternel sur les choses et qui disent n'importe quoi, je ne les crois pas. Mais lorsque la sainteté, lorsque la pureté de l'Éternel, lorsque justement les vrais prophètes qui ont la parole, qui ont le règne de David en eux, ils sont là, ils voient les ténèbres, ils les vivent. Et nous les vivrons pareil, jusqu'à ce que le faux Mashiach, qui est en train de se lever et de gouverner, il amène. Et il faut croire, il faut savoir que c'est parallèle. Mais il y a le fils de David qui triomphera. Alors qu'est-ce qu'il voit? Il voit la lumière et la Géoula, il voit la délivrance. Il voit l'extraordinaire de la délivrance. Et pour conclure, je crois que c'est très important de savoir que lorsque nous sommes dans ce bois de Chittim, c'est quelque chose où extérieurement nous sommes dans la fragilité, dans l'état humain, parce que le bois de Chittim, c'est l'humanité. La fragilité d'humain. Le Chita. Le Chita, Ken. Ouais. Je voudrais conclure avec deux choses pour vous dire ce qu'on va voir mardi. Vous voulez? Vous êtes d'accord? Il y a la première des choses pour comprendre justement que ce que nous construisons, ce n'est pas un royaume ecclésial qui fait de la mission, qui veut convertir tout le monde et qui veut amener l'humanité entière à croire dans les mêmes choses. D'ailleurs, personne ne croit les mêmes choses. Individuellement et collectivement, personne n'a les mêmes dogmes. Personne n'a les mêmes pratiques, donc c'est plus que compliqué. Et lorsque on commence à voir au travers d'Israël et du Mashiach, c'est que le Talmud nous dit une chose qui est en rapport avec le Messie sur Matthieu 24, qui décrit tout ce qui doit arriver avant. Et vous voyez, c'est ça, voir au loin, être un guetteur, quelqu'un qui a la révélation de Dieu, c'est pas quelqu'un qui dit des choses qu'il sent. Je sens, je ressens. Une fois, il y a quelqu'un qui est allé voir ma femme et lui dit « je ressens ». Moi, je lui ai dit « tu lui as envoyé paître au moins. Qu'est-ce qu'il ressent ?» Il ressent et puis il essaye de voir si c'est juste. J'ai dit « mais ça ne va pas, non ?» C'est où il sait ou il ne sait pas. Alors, c'est un peu radical, c'est clair, on n'a pas l'habitude. Mais c'est comme ça. C'est ça, une épée à double tranchant. Et donc, le Talmud dit quelque chose. « Si tu veux percevoir l'invisible, observe le visible. » Il y en a qui essayent d'éviter de se désincarner en niant l'existence, les problèmes, les souffrances dans le monde, en se connectant dans quelque chose qui les font entrer dans le monde de l'évasion comme s'ils étaient dans du LSD. Et il y en a qui se gargarisent justement dans les temps de louange de LSD spirituel. Ils quittent leur tente et ils voltigent. Et puis quand ils reviennent, ils sont complètement. Et après, ils sont désincarnés. Et quand ils parlent, on ne comprend plus rien. Il y en a des fois, quand ils me parlent, je les regarde. Franchement, même je fais des efforts et je ne comprends pas. Ça, c'est une définition. C'est une connexion et pas une déconnexion. Connecter avec le ciel ne veut pas être dire être déconnecté de ce qui se vit. Mais qu'au contraire, ce qui se vit doit préparer ce qui est à vivre. Ça, c'est un secret. Alors, on n'est pas dans le monde de la séparation, mais dans l'union du Echad. Le bois de Chittim doit recouvrir. Alors, j'aimerais simplement dire ça. C'est que dans l'hébreu, il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour arche. Nézer, Keter, Ateret et Zer. Plusieurs termes pour dire couronne. Keter, nous savons que c'est la couronne suprême, c'est le règne de Dieu total sur tous les mondes, tous les univers, dans tous les temps, dans tous les siècles. Mais les autres termes nous amènent à découvrir l'autre réalité du royaume et du règne. Alors, ce qu'on va voir mardi, c'est, on reviendra un petit peu en arrière, mais on va avancer. Et je vais rester dans cette paracha. On va la continuer, on va l'approfondir. La semaine prochaine, c'est Tetzavé. Mais on va entrer dans la gloire, parce qu'on va construire. On va construire un royaume de sacrificateurs. Une nation sainte à la gloire du Père. Et c'est là que l'on verra. Parce que si je vous donne la conclusion et de vous dire comment Mashiach, venez mardi, là vous l'aurez.